Chers amis, chers camarades, je vous souhaite la bienvenue à la fête de lutte ouvrière. Cette fête, elle est la preuve que notre courant politique communiste et révolutionnaire est toujours bien vivant, qu'il existe des femmes et des hommes qui ne se résignent pas à accepter la dictature des patrons et la folie d'une économie qui provoque autant de catastrophes dans le monde. Cette fête nous donne l'occasion de nous retrouver pour boire un verre, manger une moule frite dans une ambiance fraternelle. Et elle nous permet aussi de discuter sérieusement de nos problèmes de travailleurs, de l'urgence à défendre nos intérêts dans la perspective du renversement de cette société injuste et inégalitaire, dans la perspective de l'expropriation des capitalistes et de la classe ouvrière au pouvoir. Car l'avenir que les capitalistes et les dirigeants politiques nous promettent est fait de sang et de larmes. Les prix montent dans tous les domaines. L'huile, les pâtes, les fruits, les légumes, la viande. Le prix des carburants pèse sur tous les ménages populaires. Et on se demande tous comment on va boucler la fin du mois. Comment on va faire pour se chauffer cet hiver avec l'électricité et le gaz qui vont augmenter de 15% en janvier. Avec les pellets, les granulés de bois, dont le prix a doublé, triplé, avec un sac à 10 ou 12 euros quand on en trouve. Si les prix montent, ce n'est pas du fait de l'opération du Saint-Esprit ou à cause de la guerre en Ukraine ou de l'épidémie de Covid. Oui, l'épidémie de Covid a eu un impact sur la crise. Et aujourd'hui, de manière encore bien plus grave, la guerre en Ukraine impacte l'économie mondiale. Mais ni l'épidémie, ni la guerre ne sont les causes de cette crise que les patrons veulent nous faire payer. La crise avait commencé bien avant le Covid et la guerre, et elles ne font que l'aggraver par la concurrence entre les grands groupes capitalistes pour maintenir et augmenter toujours plus leurs profits, et par la spéculation, en profitant de l'anarchie et du chaos encore plus marqué de l'économie capitaliste en crise, pour créer artificiellement des pénuries et ainsi augmenter les prix dans tous les domaines. Pendant qu'on s'appauvrit ici et que dans d'autres endroits du monde, la question qui se pose à des centaines de millions d'hommes, de femmes et d'enfants, c'est est-ce qu'on va pouvoir manger aujourd'hui? Les capitalistes, les propriétaires des grands groupes industriels et financiers se gavent de milliards. En France, les 40 plus grosses entreprises du pays ont réalisé 73 milliards d'euros de bénéfices en 6 mois, un record. Chez Toyota, où je travaille, c'est 5,4 milliards d'euros de bénéfices en 3 mois seulement. Partout, le travail est plus dur, plus intense, avec des salaires à la traîne, des salaires qui ne permettent pas à une famille ouvrière de vivre. Et en plus des profits que ces grands groupes réalisent sur notre exploitation, ils profitent de l'argent public, ils profitent du chômage partiel par exemple, et ils se débrouillent pour ne pas payer d'impôts sur les bénéfices comme Total ou Toyota. Comme si ces grands groupes faisaient tourner les usines ou les raffineries sans faire du profit pour rien. Et puis, les grands groupes capitalistes, ceux qui tiennent les monopoles, ils organisent les pénuries artificielles. Il faut par exemple attendre entre 6 et 9 mois après la commande pour obtenir la petite voiture, la Yaris, qu'on produit à l'usine. Cette pénurie artificielle a permis à Toyota d'augmenter le prix de la Yaris de plus de 1000 euros depuis le début de l'année. Et tous les autres constructeurs font pareil. Des géants de la sidérurgie comme ArcelorMittal ou Aluminium Dunkerque ont récemment décidé de réduire leur production. ArcelorMittal a fermé 2 hauts fourneaux en Europe. Aluminium Dunkerque a décidé de n'utiliser que les 3/4 des cuves d'électrolyse. ils osent prétendre qu'ils n'ont pas les moyens de payer leurs factures de gaz et d'électricité. Ils croient peut-être que nous allons avaler ça. Même si les prix, si le prix a été multiplié par 10, avec les milliards qu'ils ont accumulés, ils peuvent les payer leurs factures, eux. Ces entreprises misent sur le recul général de la production et l'anticipent en réduisant l'offre d'acier ou d'aluminium dans le seul but de maintenir à un haut niveau les cours de ces deux métaux. Produire moins pour gagner plus en spéculant, voilà leur logique. Et en faisant cela, ces grands groupes contribuent à l'aggravation de la crise. Cela n'empêche pas les économistes, vous savez, ceux qui se prétendent les experts du capitalisme, de tout justifier. Souvenez-vous, il y a un an, le directeur de la Banque centrale américaine expliquait que la hausse des prix serait temporaire et qu'il fallait continuer à déverser des milliards, des milliers de milliards aux capitalistes à des taux d'intérêt proches de zéro, voire même négatifs. Eh bien aujourd'hui, le même directeur de la Banque centrale américaine explique que l'inflation, ça va durer et que la seule chose à faire est d'augmenter fortement le taux d'intérêt. C'est un coup dans le zig, un coup dans le zag, et les conséquences de toutes ces décisions ne peuvent déboucher que sur l'aggravation de la spéculation, la faillite de milliers de petites entreprises, la ruine des États, l'appauvrissement des populations et l'augmentation du chômage. Pour les travailleurs, quelle que soit la politique prônée par les banques centrales, c'est toujours des attaques, soit parce que les prix augmentent, soit parce que le chômage augmente toujours plus. Certains même, comme Patrick Artus, conseiller économique de la banque Natixis, qui gère plus de 1 000 milliards d'euros, donne, lui, ce conseil. Pour faire baisser l'inflation, il faut faire monter le chômage. Autrement dit, pour protéger les capitaux de la dépréciation à cause de l'inflation, il faut appauvrir encore plus les travailleurs et les plus pauvres. Et tous les gouvernements sont à l'image de ces capitalistes et de leurs économistes. Ils pataugent. Ils sont incapables d'éviter les catastrophes économiques, les catastrophes écologiques, impuissants face à l'anarchie de leur propre système économique. On est dans une situation où les capitalistes sont paumés et pataugent, alors que c'est la classe sociale qui est à la tête de toute la société, celle qui détient les moyens de production, les capitaux, les médias, celle qui a la main mise sur les États et leurs armées. La bourgeoisie ne voit pas d'issue à la crise, pas plus qu'à la guerre, ce qui n'empêche absolument pas chaque capitaliste de se demander comment il va pouvoir tirer profit du chaos et comment ramasser le plus de profits avant que leur système ne s'effondre. Tous les partis traditionnels, de la gauche à la droite, en France et dans tous les pays impérialistes, sont dans le même type d'impasse. Et ces machines politiques qui ont déversé des tonnes d'illusions électoralistes sont en panne. En l'absence de la classe ouvrière sur le terrain social et politique, cela contribue à la pousser vers les idées réactionnaires et à l'accession de politiciens de plus en plus réactionnaires à la tête des États, comme en Italie dimanche dernier. Pour le moment, la classe ouvrière est déboussolée politiquement. Je veux parler de l'abstention et surtout du vote ouvrier pour le Rassemblement national. Et comment ne pas l'être, après des dizaines d'années où à chaque fois que la gauche s'est retrouvée aux affaires, elle a mené une politique pro-patronale et anti-ouvrière. D'ailleurs, les partis de la gauche veulent remettre ça avec leur nouvelle mouture bancale, la NUPES, qui veut faire croire aux travailleurs qu'en votant bien, on vivrait moins mal. Mais ce ne sont pas les politiciens qui dirigent, qui décident. Ce n'est pas Macron qui décide d'augmenter les cadences, d'aggraver les horaires, de ne pas augmenter les salaires, de fermer telle ou telle entreprise. Ce sont les capitalistes qui décident et Macron est là pour les aider. Et ce serait pareil si c'était Mélenchon, Roussel ou Le Pen tout comme c'était pareil quand c'était Mitterrand, Chirac, Jospin, Sarkozy ou Hollande. Et depuis plusieurs mois se rajoute l'inquiétude créée par la guerre en Europe, en Ukraine. Cette guerre est la conséquence des appétits impérialistes des puissances occidentales qui augmentent au rythme où la société s'enfonce dans la crise économique. Et cette guerre, elle contribue aussi à aggraver la crise du système avec, en plus, une menace bien réelle d'extension du conflit. La semaine dernière, Poutine a donc décidé une mobilisation partielle de la population civile. Ici, cela nourrit toute la campagne qui vise à faire croire que le seul responsable de cette situation, c'est Poutine, comme si c'était le seul. Car cette guerre, c'est l'affrontement entre l'OTAN, la force armée des puissances occidentales, contre la Russie du dictateur Poutine, avec la peau des populations ukrainiennes et de plus en plus de la population russe. Avec cette mobilisation, Poutine est accusé de surenchère. Mais quand les États-Unis livrent massivement des armes très puissantes et aident à la formation des militaires ukrainiens, ce n'est pas de la surenchère, ce n'est pas de l'escalade. Ici, tous les politiciens veulent que nous nous rangions derrière ceux qui font la guerre à Poutine. Mais se ranger derrière eux, c'est se ranger derrière ceux qui attaquent les chômeurs, qui font des lois contre les retraites, qui trouvent normal que les travailleurs soient de la chair à exploiter, qui pillent la planète et sont les bénéficiaires des interventions militaires de l'Afrique au Moyen-Orient. Et ce sont les mêmes. Et ce sont les mêmes qui nous demandent de nous ranger derrière leur union nationale, les mêmes qui demain trouveront normal de nous transformer en chair à canon. Non, cette guerre n'est pas celle des classes populaires et des travailleurs ukrainiens. Ce n'est pas celle des classes populaires et des travailleurs russes. Cette guerre, ce n'est pas la nôtre. Les États-Unis ont intérêt à ce que cette guerre dure, d'autant plus qu'aucun soldat américain n'y meurt, comme en Afghanistan, en Irak, ou plus loin dans le passé, au Vietnam. Ils y ont intérêt politiquement. L'OTAN a repris du poil de la bête. Ils y ont intérêt économiquement, au profit de leur trust et des banques américaines. Les pays européens sont en difficulté. Il y a des tiraillements entre les États, et les capitaux se réfugient sur des placements plus sûrs, aux États-Unis. La baisse de l'euro ou de la livre sterling par rapport au dollar en est un des signes. La bourgeoisie, ses économistes, les politiciens à la tête des États sont engagés dans une fuite en avant vers une catastrophe économique annoncée et des catastrophes militaires qui peuvent se généraliser. Alors, nous ne devons pas nous laisser abuser par toutes les paroles creuses sur la paix. La paix est impossible sous le capitalisme, car le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage, pour reprendre les paroles de Jaurès. Pour préparer la paix, il faut préparer la révolution ouvrière. Oui, il faut renverser le système capitaliste. Oui, il faut le pouvoir ouvrier qui seul pourra débarrasser la société de l'exploitation, du profit, de la concurrence, des frontières et des guerres. La bourgeoisie se rend compte du danger que cette situation représente pour sa domination. Des révoltes éclatent, comme à Haïti, en Iran. En Russie, la mobilisation militaire de civils par Poutine commence à rendre public des oppositions à la guerre, à provoquer des réactions dans la population. En Grande-Bretagne, malgré des lois très restrictives pour faire grève, il y a eu une vague de grève sur les salaires sans précédent depuis 40 ans. Et ici, à une échelle plus réduite, il commence à y avoir des débrayages, des grèves sur les salaires. Face aux privations, aux souffrances toujours plus grandes, il y aura des révoltes, des explosions sociales, des grèves et des révolutions. Il y en a eu dans le passé, il y en a aujourd'hui, il continuera à en avoir. La question qui se pose à nous, c'est qui sera porté à la tête des explosions sociales à venir. La nature a horreur du vide. C'est pareil quand les masses ouvrières commencent à se mobiliser. À chaque fois, il y a une multitude de prétendants pour se placer à la direction des explosions sociales et les dévoyer pour mieux les arrêter. Oui, il y aura des grèves et des manifestations de colère. Et c'est au travers de ces combats que notre classe sociale prendra conscience de sa force et de ses intérêts collectifs. Et comme le disait Fernand Pelloutier, qui participa à la fondation de la CGT, « Ce qui manque à l'ouvrier, c'est la science de son malheur, c'est de connaître les causes de sa servitude. Sa servitude, c'est de pouvoir discerner contre quoi doivent être dirigés ses vies. » Oui. Oui, nous les travailleurs, nous avons beaucoup d'ennemis et aussi beaucoup de faux amis. Alors, il nous faut avoir les idées claires pour éviter toutes les impasses vers lesquelles les tenants de ce système voudront nous conduire. Et pour la défense de nos intérêts en tant que classe sociale, il nous faut des objectifs qui nous unissent. Contre le chômage des uns et la surexploitation des autres, il faut imposer le partage du travail entre tous sans perte de salaire. Contre les salaires, les retraites ou les allocations qui permettent à peine de vivre jusqu'au 10 ou 15 du mois, il faut imposer l'augmentation générale des salaires et des retraites et surtout, il faut imposer l'indexation des salaires et des retraites sur les prix réels. Les récentes annonces de profits de dividendes versés par les grandes entreprises montrent que de l'argent, il y en a. Et même les entreprises qui crient qu'elles sont étranglées par l'augmentation des prix du gaz, elles ont des capitaux et les actionnaires ont des fortunes personnelles. Oui, l'argent existe pour indexer les salaires et les retraites sur les prix et répartir le travail entre tous sans diminution de salaire. Et si ces grands patrons lèvent les bras au ciel devant ces revendications partant du bon sens, qu'ils nous montrent leur vraie comptabilité. On verrait alors que non seulement ils ont les moyens, mais qu'en plus, on n'aurait pas besoin d'eux et que nous pourrions diriger toute la société sans eux et dans l'intérêt de tous. Voilà tout ce dont il faut convaincre les nôtres. Voilà ce à quoi peut servir un parti des travailleurs. Donner des vrais objectifs de lutte. Quand les luttes viendront et se généraliseront. Car elles viendront tôt ou tard. Nous ne savons pas ce qui mettra le feu aux poudres. La future attaque contre les chômeurs, la future réforme des retraites, voire même le mot méprisant de trop de ceux qui nous gouvernent. Nous ne savons pas quelle sera la mesure de trop qui allumera la mèche, mais il faut s'y préparer. Voilà à quoi peut servir un parti qui représente les intérêts des travailleurs. À lever un drapeau qui permette de se regrouper autour d'un programme de lutte contre le patronat et pour le pouvoir ouvrier. Cette idée, qui à elle seule est tout un programme, il nous faudra la faire vivre parmi nos collègues, nos voisins, notre famille, nos amis. Pour cela, nous pouvons nous appuyer sur les expériences que nous avons tous vécues ces dernières années. Oui, bien des travailleurs comprennent aujourd'hui que la société capitaliste marche sur la tête et c'est le rôle des militants communistes révolutionnaires de trouver les mots pour exprimer cette colère et lui donner un sens, un objectif politique, le renversement du pouvoir de la bourgeoisie. Cette année, on ne va pas nous demander de voter. Mais nous, les travailleurs, on a quand même quelque chose à faire. Déjà comprendre, nous mettre les idées au clair, définir un programme, des objectifs qui permettent aux travailleurs de se mettre en ordre de marche. Et puis, convaincre autour de nous de ces objectifs, se regrouper, s'organiser et profiter de toutes les occasions pour faire avancer les idées de la lutte des classes. Et je voudrais également m'adresser aux plus jeunes qui sont dans cette salle ce soir. Oui, vous avez raison d'être ici, de venir y discuter, y partager votre révolte contre les injustices, les inégalités, le racisme, le nationalisme, la famine, la guerre, l'oppression des pays pauvres, les menaces sur l'environnement et la planète. Vous avez un rôle à jouer dans la lutte que les travailleurs ne manqueront pas de mener contre les grands patrons, les banquiers et leur système capitaliste. Oui, l'avenir appartient à la classe ouvrière, à son parti, à son programme communiste révolutionnaire. Vive la classe ouvrière et vive le communisme! Yeah.